Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
À toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. D'entendre Frank Sinatra de Miss Keating and the Hacker. Bienvenue dans le cynisme, la frivolité, la vulgarité, le nihilisme d'une société et d'une génération biberonnée à la duperie de la gauche caviar, dont le chef Mitterrand était un cagoulard connu et reconnu. Il sut fanatiser ses électeurs, plus réactionnaires et sectaires que ceux et celles qu'il dénonce. Leur vanité et leur suffisance ont été séduites par le néant moral du marché culturel occidental, dans lequel le rien a une valeur marchande. Rappelez-vous cet artiste, Salvatore Garo, qui, en 2021, a vendu environ 15 000 euros une œuvre invisible. Comme beaucoup d'artistes en France, Miskitine et The Hacker sont des provinciaux venus de l'Isère qui ont cherché par un coup d'éclat provocateur à se démarquer de la concurrence commerciale et culturelle des années 2000 en s'inspirant de la musique industrielle de Düsseldorf et de Détroit. En 1970, le groupe ouest-allemand Kraftwerk véhicule dans son clip « Robot » la déshumanisation des individus par l'URSS en plein conflit de la guerre froide. Alors, utilisation du rouge et noir, du graphisme constructiviste et des mouvements robotisés, sous-entendant ainsi que de l'autre côté du mur, les êtres humains sont réduits à devenir des robots. Et maintenant, voilà comment, en 1999, la Société Nouvelle était annoncée dans le journal de France 2.
À Genève, au salon Télécom 99, l'industrie mondiale de la téléphonie multiplie les effets d'annonce et les démonstrations des progrès en matière de télécommunication. Avec ou sans fil, avec ou sans musique, avec image ou adresse Internet, le téléphone devient maintenant l'objet centre du monde et promet, nous dit-on, une civilisation nouvelle. Reportage Jean-Claude Alanic et Claude Sicard.
Demain, c'est comme ça qu'on se téléphonera, le regard plongé dans son portable. Car grâce à une caméra, on se parlera les yeux dans les yeux, tenue correcte exigée, surtout si votre patron est au bout du fil. Encore au stade du prototype, le téléphone caméra sera prêt dans 2 ou 3 ans. Il permettra, en toutes circonstances, de se voir et de tout voir, mais ce ne sera pas son seul intérêt.
En passant par Internet, on pourra consulter sur le téléphone un plan de ville ou contacter un hôtel, visiter les chambres et faire la réservation si la chambre vous plaît.
L'avenir du téléphone, ce sera aussi le commerce électronique. Relié à un ordinateur, il permettra d'entrer dans un magasin virtuel et de dialoguer avec une vendeuse bien réelle. Expérience pilote organisée par France Télécom, le client est à Genève, la vendeuse à Nantes. Pour payer, on passera évidemment par son téléphone. Mais le futur très immédiat, c'est ce téléphone Minitel qui permet, sans avoir d'ordinateur à la maison, de surfer sur Internet. Pour se connecter, une simple touche et vous êtes, par exemple, sur le site de France 2. Pour consulter le Minitel ou envoyer du courrier électronique, aussi simple, il suffit de taper sur le clavier du téléphone.
92% des foyers français ne sont pas connectés à l'Internet. Et donc nous essayons d'adresser la cible des gens qui n'ont pas de PC aujourd'hui à la maison et qui souhaitent néanmoins avoir accès à des services sur Internet ou sur Minitel.
Présenté à Genève, ce téléphone très branché sur Internet sera en vente dans quelques jours. Son prix, 3990 francs.
Vive le progrès commercial! Et en 2024, qu'en est-il? Le progrès, c'est de pouvoir se déplacer grâce à un QR code dans Paris pour voir Anne Hidalgo et Macron se baigner dans les chiottes des Parisiens. C'est payer 4 euros un ticket de métro ou de bus parisien. C'est voir nos enfants sélectionnés par l'algorithme de Parcoursup.
Parlez-vous le Parcoursup? C'est le titre d'un petit livre d'intervention qui paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil, dans lequel Johan Ferber, ici présent, montre à quel point cette plateforme numérique, qui depuis 4 ans est un passage obligé pour l'accès des jeunes bacheliers à l'enseignement supérieur, est un véritable projet de société, et un projet de société absolument antidémocratique. Bonsoir alors, Johan.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce petit livre sur un sujet d'importance capitale, l'éducation, aussi bien l'éducation secondaire que l'enseignement supérieur, parce que Parcoursup, on le comprend bien en lisant, et c'est là que ce sont les enjeux, est à l'articulation cruciale entre les deux. Vous êtes enseignant au lycée Mozart du Blanc-Mesnil, professeur de lettres, mais aussi éditeur, aussi critique littéraire. Et puis, donc, fort de votre expérience auprès des lycéens, vous nous dites dans ce livre, d'une part, que Parcoursup est, je vous cite, un terrifiant accélérateur d'inégalités sociales. Et puis, vous nous dites aussi que cet état de fait n'est en rien le fruit d'un dysfonctionnement. Au contraire, vous montrez que Parcoursup remplit parfaitement sa fonction, qui est de contribuer à la conversion forcée de la société française au néolibéralisme. Il s'agit, en l'occurrence, d'en finir avec l'enseignement supérieur de masse, de produire de l'échec. C'est une expression que vous avez. De fait, 140 000 étudiants laissés sur le carreau par le système rien qu'en juin dernier, hein, sans affectation. Et il s'agit ainsi d'assurer, de renforcer l'exclusion d'une partie de la population de l'accès à certaines carrières. Et vous parlez de Parcoursup comme d'un outil ségrégatif de la violence sociale. Hein, vous avez un bon sens de la formule. Si on reprend depuis le début, Parcoursup a été présenté par ses artisans au départ, il y a 4 ans, en particulier par Jean-Michel Blanquer, comme un grand progrès par rapport au système précédent qui était APB, admission post-bac, contre lequel Blanquer et compagnie n'avaient pas de mots assez durs.
C'était un extrait d'une interview de Johan Ferber par Julien Théry sur Média. Le progrès, c'est aussi de voir nos anciens sélectionnés par l'IA pour être soignés dans les hôpitaux, comme aux États-Unis.
L'IA est omniprésente dans le système de santé, à une échelle qu'on n'imagine pas.
Ziad Obermeyer a découvert qu'un important défaut de conception dans le système de santé américain avait des répercussions sur des dizaines de millions de personnes.
Nous avons publié un article qui a suscité une réaction énorme, parce que la majorité de la population américaine est affectée par des algorithmes qui sont gravement faussés.
Chaque année aux États-Unis, on dépense près de 4 billions de dollars en soins médicaux. L'IA a été intégrée dans le système pour l'améliorer et déterminer quelles personnes ont besoin de soins avant qu'elles ne tombent gravement malades, ce qui devrait faire économiser de l'argent et sauver des vies.
Normalement, dans notre système de santé, on attend que les patients aillent voir le médecin pour résoudre leurs problèmes. Mais on aimerait que ce système soit plus proactif pour éviter justement l'apparition de ces problèmes. Il est clair que des algorithmes pourraient nous aider à atteindre cet objectif, puisqu'ils sont très doués pour les prédictions. Par exemple, combien de produits va-t-on acheter sur Amazon? Quelle note donnera-t-on à un film sur Netflix?
Le défaut de conception vient du fait que les programmateurs ont demandé à l'algorithme de s'appuyer sur les dépenses passées pour évaluer les besoins futurs.
Le problème est que tous les Américains qui ont besoin de soins médicaux n'en reçoivent pas toujours. Par conséquent, ceux qui ont le moins accès au système de santé coûtent forcément moins cher.
Or, l'IA attribue un score à chaque patient en se fondant sur ce qu'il a déjà coûté en soins. Plus la dépense a été importante, plus le score est élevé. Et inversement.
La manière dont l'IA attribue ce score détermine très largement le type d'aide supplémentaire auquel le patient pourra prétendre. Dans le groupe des scores élevés, on est incorporé très rapidement dans un programme d'aide. Dans le groupe des scores les plus bas, on est écarté de l'accès à ces programmes. C'est l'IA qui décide en grande partie de ce qui se passera pour tel ou tel patient.
Ainsi, un patient avec un score très bas qui aurait besoin d'un suivi médical après une crise cardiaque a moins de chances d'y avoir accès.
Autrement dit, ce sont justement les patients qui n'avaient déjà pas été bien soignés qui sont désavantagés par l'algorithme. La fois suivante, ils auront encore moins accès aux soins, ce qui crée un cercle vicieux. L'ampleur colossale de ce problème qu'on a mis au jour est due à certaines décisions techniques en apparence insignifiantes prises par ceux qui conçoivent les algorithmes. On n'accorde pas à ces choix l'importance qu'ils méritent. Et pourtant, ce sont eux qui font toute la différence entre un algorithme qui perpétue et renforce tout ce qu'il y a de choquant dans notre système de santé et un algorithme qui lutte contre ça. C'est parfois une question de vie ou de mort.
Effrayant cet extrait de l'émission d'Arte sur l'IA. Le progrès, c'est aussi l'enfermement de chacun devant son smartphone et ses AirPods sur les oreilles. Mais le progrès en Occident, c'est avant tout les États-Unis et leurs rêves américains.
I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, my sorrow. Maybe it's inside the bottle.
Maybe it's inside the bottle.
I had some good old buddies, names of whiskey and wine.
Hey, hey.
And for my good old buddies, I spent my last dime.
Hey, hey.
Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine.
Hey, hey.
Your mama may have blessed the child. Myself down to the bone, and I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home.
Hey, hey.
Well, I need dollar, 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 that's what I need.
Hey, hey.
Said I need dollar, 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 that's what I need.
Hey, hey.
Well, I need dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your. Share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Come on, share your dollar with me.
C'était I Need Dollar de Aloe Black. Dans la précédente émission, nous avons vu la naissance de la société de consommation en France au XIXe siècle. Mais l'Amérique a vite fait de rattraper, de dépasser ce modèle. On sait que la guerre de sécession, pendant que le génocide des Indiens se poursuivait dans le Far West, n'était qu'une question d'intérêts commerciaux et de concurrence industrielle. Il faut lire le livre d'Édouard Lacouture, « La vérité sur la guerre d'Amérique, mémoire à sa majesté l'empereur Napoléon III ». C'est la vision d'un négociant français sur les véritables raisons de ce conflit. On se préoccupe beaucoup en Europe, en France surtout, de la question américaine. Bien peu de personnes cependant s'en rendent un compte exact. Quelques esprits généreux semblent accorder toute leur sympathie au nord des États-Unis dans la lutte fratricide qu'il a entreprise contre le Sud, parce qu'ils s'imaginent qu'il n'a d'autre but que l'abolition de l'esclavage et l'émancipation complète de la race noire. Étrange illusion! Ils ne voient pas qu'en croyant prendre parti pour les opprimés, ils soutiennent les oppresseurs. Ils ne voient que l'abolition de l'esclavage. Ils ne voient pas que l'abolition de l'esclavage est un prétexte. Quelle est en effet la liberté dont jouissent les Noirs prétendus libres et les hommes de couleur dans les États du Nord? Celle de mourir à peu près de faim. Ce sont des ilotes et des parias. Ils ne sont pas citoyens. Ils n'ont aucun droit civique. Ils ne peuvent devenir propriétaires, ils ne sont reçus nulle part, ils ne peuvent aller dans les églises, dans les spectacles, dans les voitures publiques avec les blancs, ils ne sont pas même admis dans l'armée qui va combattre pour leur émancipation. Quels sont les pourvoyeurs de l'esclavage aux États-Unis? Ce sont les armateurs de New York et de Boston. Et pendant qu'aux yeux de l'Europe, ils se targuent de philanthropie, leurs vaisseaux voguent vers les côtes d'Afrique pour continuer cet infâme et fructueux trafic.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique. Je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique. Si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez. Si je n'ai dans les yeux que l'Amérique, je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans froid la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai.
La fascination de la grande bourgeoisie américaine pour la France à la fin du XIXe siècle a été un élément important dans l'accélération du modèle américain. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, des intellectuels comme Edith Wharton ou Hemingway prennent parti pour aider la France. Et de cette intervention américaine, il restera la musique, le musical, les cocktails, la transformation du monde du divertissement et surtout le crédit à la consommation. Le plan Marshall, après la Seconde Guerre mondiale, viendra accentuer l'influence de ce modèle consumériste américain qui s'est étendu à partir de 1968, période hippie, au point de prendre dans les échanges commerciaux internationaux la place de l'or.
Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaines, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. Car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base ? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or.
Dans la société de consommation, l'individu, quelle que soit son opinion politique, ses origines ethniques ou sociales, doit, dans un processus, dès la naissance, avoir l'esprit conditionné pour avoir l'illusion d'être un consommateur libre. C'est un capitalisme séducteur, comme le titre le philosophe Michel Clouscard.
Bon, le rock and roll, vous montrez que c'est aussi ça fait partie de l'image de marque de la société capitaliste, et vous pensez que le rock, ça n'est pas du tout la liberté comme les jeunes gens le croient, mais une sorte d'acte de soumission à la société capitaliste.
Exactement, je reprends toute une systématique de gestes, de rituels, qui sont considérés comme des gestes d'émancipation et de libéralisation. Et je montre qu'au contraire, ce sont les modèles culturels dont le capitalisme a besoin pour son nouveau marché, son énorme marché, marché de l'industrie du loisir, du plaisir, du divertissement, de la mode, des monopoles commerciaux sur le sexe, sur la drogue et sur le jeu. Alors là, il y a un fantastique marché permissif qui a besoin de gestes d'usage. Et ces gestes-là, la vieille société traditionnaliste ne pouvait pas les proposer. Alors il a fallu premièrement cette rupture qu'a été le plan Marshall, qui a amené de nouveaux produits culturels et de nouvelles manières de consommer. Et il a fallu aussi l'intervention de Cohn-Bendit, c'est-à-dire le fameux mai 68, qui a permis de mettre en place définitivement la société permissive.
Alors il a fallu. Mais alors vous êtes contre cette société parce que les jeunes gens ils sont contents d'avoir du
travail. Ah, bien sûr, mais c'est le constat, capitalisme et la séduction.
Mais oui, mais.
C'est un processus d'intégration et de récupération de la femme et du jeune dans le nouveau marché de la libéralisation Des mœurs.
Oui, mais avant le rock, il y avait le tango, il y avait la valse.
Ah, mais bien sûr. Bon, bien sûr.
C'est ça que je... Il y avait la publicité, elle était déjà là.
Il y avait la réclame. Il y avait la réclame.
L'inventeur de la publicité, Jésus-Christ.
Quant au rock, évidemment, dès qu'un orchestre rock va à Moscou, il fait un malheur, tous les jeunes s'y précipitent, etc. Alors, je ne vois pas pourquoi vous trouvez, vous prenez comme accusation du capitalisme, ce qui est aussi très endémique dans les pays socialistes, dans n'importe quelle société. Et d'autre part, comme vous le savez, il y a une séduction formidable du capitalisme sur les pays de l'Est.
Oui, justement. Oui.
Réponse de Michel Kouskar.
Oui, justement, il y a toute une... C'est la stratégie du capitalisme, justement, de séduire...
Mais lui aussi, de séduire idéologiquement.
De séduire à tous égards dans les pays d'abord capitalistes et vers les pays... C'est la stratégie. C'est-à-dire qu'on a pu considérer longtemps que le capitalisme était méchant. Il l'est dans les pays en voie de développement, mais dans les pays post-industrialisés, au contraire, il a toute une stratégie de l'intégration parce qu'il a tout un nouveau marché qui a échappé à l'analyse des économistes bourgeois et marxistes d'ailleurs, et tout un nouveau marché qui rapporte d'énormes profits, d'une part, permet de dynamiser le marché traditionnel, et troisièmement, je crois, même permet d'une régulation, une normalisation de la crise. Alors il y a tout un champ d'investigation, tout un champ d'études qui est ouvert et que je suggère.
Mais au fond, alors, le capitalisme a une excellente image de marque.
Il dispose de des puissances trompeuses.
Comme Séguéla.
Comme Séguéla.
Oui.
Parce que le rêve est trompeur. Parce que vous pensez que rêver, c'est tromper.
Bien sûr, évidemment.
Mais je vous plains, mon cher. Mais vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites, de cette atteinte à la vie.
Non, mais il y a une confusion énorme.
Parce les gens, le rêve, rêver. Alors le vous voulez tuer le cinéma, vous voulez tuer la littérature, vous voulez tuer la télévision, non, vous voulez tuer tous les instruments
de rêve.
Le rêve
que vous proposez, c'est une pacotille. Il y a un rêve qui est authentique, c'est le rêve, le mythe occidental, rêvons de Tristan Isel, le prélude de Tristan, vous connaissez. Ça, c'est le sérieux. Voilà le rêve.
Pourquoi c'est plus sérieux qu'un grand film de pub?
Parce que
ils sont dans les musées l'un et l'autre.
Parce que c'est l'amour et un film
de pub. Pas du tout. Ils sont pas au même niveau. L'un est au niveau du quotidien et l'autre au niveau de l'extraordinaire. Le rêve, il est permanent. Moi, je suis les premiers pas du rêve. Je suis là pour qu'en permanence.
C'est pas le rêve, ça. C'est pas le rêve. C'est
une cigarette.
Est-ce que vous,
John Wayne,
est-ce que vous lites mène à la Tristan et Isolde?
Mais ben, il ouvre l'esprit. Je suis sûr que l'enfant qui est là devant sa télévision et qui est capté par mes spots de publicité, bon, s'ils ont du talent, s'ils sont dans l'imaginaire, si c'est tout Hollywood qui est là dans l'écran, eh ben, je vais lui ouvrir des petites fenêtres de rêve.
Et bien sûr, vous le conditionnez totalement.
Non,
vous le conditionnez totalement à l'imaginaire voulu par le capitalisme. De vie.
Produire pour créer des richesses, mais pour enrichir qui? Dans la société de consommation, tout est bon pour que le capitalisme puisse s'enrichir sur le dos du consommateur. Les capitalistes et jeunes start-upers de l'ubérisation, afin de renouveler leur production et ne pas lasser leurs consommateurs passifs et majoritairement de plus en plus précaires, adorent s'ouvrir à des nouveaux marchés privés et concurrentiels comme la green economy. Consommons éco-responsable. Rien ne se perd, tout se réutilise. Et puis, continuons de trier nos déchets bénévolement pour que les matières réutilisées soient achetées moins chères par les futurs acquéreurs capitalistes. Pendant la crise Covid, la masse a été sevrée de sa consommation superficielle. Les plus en manque se sont jetés immédiatement sur la piqûre pour consommer les stocks, acheter des milliards aux entreprises pharmaceutiques privées, et puis aussi partir en vacances tranquillement, et aussi dépenser leur salaire dans les loisirs et autres objets de confort. Le marché du numérique s'est également développé pendant les confinements. QR code, dématérialisation commerciale, dématérialisation des services publics. Hannah Arendt écrivait dans La crise de la culture, « La société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs et des articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. » Et que dire de l'art, jugé sur sa valeur marchande par le nombre de streams, de vues, de spectateurs. Ainsi, plus l'œuvre correspond aux idées véhiculées par la spéculation de la société de consommation, et plus l'artiste aura une chance de se faire une place financière dans le marché, comme le marché de la mode. Ainsi, en 2024, pour les artistes, idéologues et propagandistes qui offrent leurs services sur le marché, la réussite et la liberté signifient simplement d'avoir de l'argent.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir le rappeur Booba et on va savoir ce que pense Booba de l'argent.
Ça te dérange pas que les gens se disent que c'est pas possible?
Non, ça me dérange pas, je suis tellement habitué de toute façon. Mais je veux dire, c'est pas grave qu'on m'aime pas. J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Normal, mais pourquoi? Parce que argent égale liberté. J'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. C'est se dire, ok, demain je pars à Moscou. À Moscou, ça me fait chier. Je reviens en France. Je vais manger un grec. Ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Je m'achète telle ou telle voiture. Je prends le bus. Mais la liberté, ça a un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, bah, il n'ira jamais aux Maldives, il n'ira jamais à une Coupe du Monde en Australie, il n'ira jamais dans la navette d'Elon Musk dans l'espace, etc. etc. Donc, argent, moi, c'est très simple. L'argent égale liberté. T'as un avocat commis d'office, t'as pas d'argent. Tu restes en prison, t'as de l'argent, t'as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc, moi, mon but, c'est d'avoir de l'argent. Simplement. Sans être vénal, c'est juste, pour moi, c'est synonyme que la liberté, c'est des clés.
Et la liberté d'esprit dans tout cela ? Les corps intermédiaires et les censeurs de la société y voient un risque de complotisme. Mieux vaut être aliéné par un billet de banque.
Je crois que ce qui a été montré tout à l'heure dans les extraits de. Enfin, les petits films qui ont été réalisés pour cette émission. C'est la crise de ce qu'on appelle maintenant le consumérisme, le consumer capitalisme, comme on le dit, c'est-à-dire du modèle américain du capitalisme. C'est une crise extraordinairement grave, sans aucun doute la plus grave que l'humanité n'ait jamais connue. Et c'est une crise à laquelle absolument personne n'ose vraiment s'attaquer. Parce que, j'en ai parlé dans mon dernier bouquin, vous évoquiez tout à l'heure, un syndicaliste italien qui s'appelle Bruno Trentin, a montré en 1997 que la social-démocratie, les syndicats ouvriers, marxistes, communistes, étaient tous d'accord pour un truc, c'est de ne absolument pas poser le problème de la limite de ce modèle, parce que ce modèle, tout le monde y a participé, en France du MEDEF à la CGT à l'extrême gauche, dans le monde de l'OMC à la Chine aujourd'hui, etc. Et personne n'ose y toucher. Cette critique qu'il faut faire et qui doit être absolument radicale, qui posait problème que d'ailleurs, à mon avis, Karl Marx, que citait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, posait dans l'idéologie allemande de 1845, à savoir que l'homme est un technicien, et qu'en tant que technicien, il produit le pire et le meilleur, qu'il se produit lui-même, mais qu'il se détruit lui-même. Cette question-là, personne n'ose la poser. Et c'est normal que personne n'ose la poser, parce qu'elle pose aussi des problèmes à la biologie, par exemple. Quel est le rapport entre la technique et le vivant? Et comment est-ce que on repense le paradigme de la biologie dans ce contexte-là. Moi, je soutiens qu'on ne peut plus être darwinien aujourd'hui. Quand je dis ça, je ne veux pas dire du tout, et c'est pas du tout en contradiction à mon avis avec Mézène. Je ne veux pas dire du tout qu'il faut abandonner le modèle darwinien en science. Pour moi, c'est le modèle rationnel, le modèle darwinien. Mais la vie humaine n'est pas darwinienne. Et c'est Darwin lui-même qui a posé le problème. Et ça, personne n'ose le poser. Voilà.
Vous venez d'entendre le philosophe Bernard Stiegler, qui s'est suicidé d'ailleurs en 2020. L'émission se termine, et quitte à choquer certains, je vous laisse sur le discours prononcé en 2007 par l'abbé Pierre, discours qui résume parfaitement notre monde capitaliste, dans lequel les nantis nous regardent nous débattre comme le font les entomologistes avec les insectes.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Alors, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang. 89.7 FM.